Europe 1.
T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Clark Gable.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits!
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits! Jusqu'à la 13e génération de mon âme!
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David,
bonjour.
Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire, sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui...
Je suis le secrétaire de monsieur... Monsieur, c'est une vedette, monsieur.
Eh oui, comme Serge Lama dans sa chanson, ils sont secrétaires. Secrétaires de monsieur et de madame aussi. On réunit des secrétaires vraiment particuliers. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi sur Europe 1. À commencer par celui que l'on connaît pour ses confessions, ses textes, ses idées, le philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau, qui a d'abord été le secrétaire particulier d'une certaine Madame Dupin. Et il en avait sur la planche... Puisqu'il a rédigé pour elle, et durant 8 années, une encyclopédie féministe. Vous verrez cela. Puis je vous raconte celui qui fut secrétaire particulier pendant la guerre du résistant Rex, qui n'était autre que Jean Moulin, mais dont il n'a appris l'identité qu'à la fin de la guerre, qui lui a coûté la vie. Daniel Cordier. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc, qui dresserez vers 17h30 sur Europe 1 le portrait de notre troisième personnage du jour, un secrétaire particulier lui aussi, et pas de n'importe qui, mais du pape Benoît XVI.
Je vous parle aujourd'hui de celui qui a hérité du surnom de Georges Clooney du Vatican, Georges Ganswein, qui fut secrétaire de feu le pape Benoît XVI, mais ça, vous le savez déjà.
Bah, aussi, ils savent déjà tout. Mais ils en ont encore beaucoup à nous apprendre. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous nous parlez d'un secrétaire.
Oui, alors j'ai déjà évoqué ici même Toussaint Rose, le secrétaire de Louis XIV. Donc à tout seigneur, tout honneur, je vais évoquer aujourd'hui le baron Fin. Le baron Fin a succédé à un certain Menval comme secrétaire du cabinet de Napoléon. Parce que Napoléon voulait toujours être au centre de tout, mais il ne travaillait jamais seul, il fallait être sur le pont nuit et jour avec lui.
Voilà. Ah oui, ça. Alors, lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession. Souvent la sienne, c'est David Castello-Lopez.
Oui.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui, David ?
Le système de Ponzi.
Ah oui ?
Oui. Alors, c'est Ponzi. Hein, qui, vous savez, César, cette arnaque. Et je vous raconterai la vie de Ponzi.
C'est comment, pas un peu ce qu'a fait Madoff après ?
C'est exactement ce qu'a fait Madoff.
Oui, oui.
Et c'est d'ailleurs probablement pas le premier à l'avoir fait, Ponzi, mais c'est vraiment celui qui l'a rendu célèbre.
Oui.
Cette d'ailleurs, vous n'auriez pas 10 000 euros chacun à me donner, parce que je peux vous en rendre davantage si vous voulez.
Vous êtes pas assez confiance. La base, c'est la confiance. En fait.
On n'aura jamais confiance en vous, Olivier.
Voilà. Exactement. On a confiance en M. Ponzi ou en M. Madoff, mais pas en vous. Voilà. Les origines, c'est dans toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
Mes aïeux, quelle époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au XIIIe siècle et on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls. Même si aujourd'hui, on parle plus corps brûlé que viande grillée.
Ouais, vous allez voir qu'il y a une époque qui ne faisait pas très bon être végétarien.
Non.
Ouais, ça vous emmenait directement...
Sur le bûcher. À ceux qui ne mangeaient pas la viande. Ouais. Ah non.
Bah si, vous allez voir.
Mais on mangeait les véganes.
Non, mais en tout cas, c'était une manière de vous trahir et donc de finir sur le bûcher.
Ah bon,
oh là là, on raconte plein de choses.
Ah oui, c'est bien. C'est bien d'apprendre des choses.
Vous ne pouvez pas de brûler les véganes.
Non, non. Voilà. De qui que ce soit.
Les piquer, peut-être.
Non. Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure. Il est 17h40.
Et pour être totalement complet, un moment redoutable et redouté, un moment où je vais vérifier que Stéphane Bern s'y connaît en histoire. Bon, c'est un peu comme si je défiais Mbappé au pénalty, quoi. Alors Stéphane, va-t-il me mettre en pleine lucarne ou va-t-il toucher le poteau ? Réponse tout à l'heure.
Ah, j'ai jamais eu autant hâte de tirer des pénaltys. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Il était un grand écrivain du siècle des Lumières, l'un des précurseurs du romantisme. Tellement romantique qu'il est tombé amoureux, bien avant d'avoir fait naître ce courant, de celle qui lui proposera d'être son secrétaire particulier, à défaut d'être son fiancé. Je vous raconte maintenant sur Europe 1, sans philosopher plus longtemps, Jean-Jacques Rousseau. Nous sommes en 1746. Un homme encore jeune est assis à son pupitre. Les grincements de sa plume sur le papier couvrent à peine la voix d'une femme plus âgée. Les minutes puis les heures s'écoulent et le trouvent encore à son minutieux travail. Si son visage nous est inconnu, il ne le sera bientôt plus, puisqu'il n'est autre que Jean-Jacques Rousseau, le célèbre philosophe des Lumières, l'auteur des Confessions et des Rêveries. Le texte qu'il inscrit là d'une main docile n'est pourtant pas de lui. Ici, il n'est qu'une plume, un simple scribe. Il a quitté les bancs de l'école depuis longtemps déjà, mais c'est avec une application d'écolier qu'il couche sur le papier les phrases que lui dicte Louise Dupin, qui vient de l'embaucher comme son secrétaire particulier. Jean-Jacques Rousseau participe à un travail gigantesque qui a déjà usé plusieurs secrétaires avant lui. Oui, Madame Dupin a en effet entrepris l'œuvre colossale d'écrire le savoir d'un point de vue féminin. C'est une véritable encyclopédie féministe qui s'élabore ainsi sous la dictée de Louise et la plume de Rousseau. Arrivé il y a peu à Paris, Rousseau avait frappé à la porte de son salon dans lequel Louise Dupin reçoit des personnalités renommées, Montesquieu, Grimm et même Voltaire. Les plus grands esprits du siècle s'y pressent, conversent et échangent dans des discussions de haute volée. C'est l'endroit rêvé pour le jeune Rousseau qui rêve d'en être. À 31 ans, ce fils d'horloger qui vient tout juste de quitter sa Genève natale n'est encore qu'un inconnu fraîchement débarqué à la capitale pour y faire son apprentissage. Attiré par la musique, il avait bien essayé de faire reconnaître ses compositions et sa protectrice, Madame de Varins, l'avait confié à un maître de chapelle, mais l'expérience fut sans succès. Fatigué par plusieurs échecs successifs, Rousseau décide alors de tenter sa chance ici. « Madame Dupin est une femme d'esprit à qui j'ai parlé de vous. Portez-lui votre ouvrage », lui avait conseillé un ami jésuite, le père de Castel. De Louise Dupin, Rousseau sait qu'elle est réputée pour être l'une des plus belles femmes de Paris. Mais il connaît surtout la renommée de son salon et c'est donc plein d'espoir qu'il se rend rue Plâtrière dans l'hôtel qu'elle occupe avec son mari, Claude Dupin. La femme qui l'accueille n'est pas pour le décevoir. Elle avait les bras nus, les cheveux épars, son peignoir mal arrangé. Cet abord m'était très nouveau, confiera-t-il plus tard. Le charme de Louise le subjugue. Le jeune homme n'y tient plus. Il se trouble, s'égare et le voilà vite épris de la grande dame. De cette rencontre, Rousseau ressort bouleversé. Il n'ose parler. Il craint d'avouer sa flamme. Ne pouvant plus se taire, il lui fait adresser une lettre enflammée dans laquelle il dévoile tout l'amour qu'il ressent pour celle qui est mariée depuis 19 ans. Mais les heures passent et le doux billet reste sans réponse. Louise en a-t-elle bien eu connaissance ? Il lui faut attendre le troisième jour pour que sa bien-aimée daigne lui adresser quelques mots sur un ton sévère qui glace le jeune homme entreprenant. Louise Dupin n'a pas apprécié ses avances et le sermonne avec mépris. Dépité, Rousseau voudrait parler, s'excuser, mais les mots ne lui viennent pas. Mais la Dupin n'est pas rancunière et elle sait même discerner chez ce jeune audacieux un certain talent et va jusqu'à lui confier la garde de son fils en attendant l'arrivée d'un précepteur. C'est un soulagement pour Rousseau qui peut continuer ses visites chez les Dupin. Mais son élève lui donne bien du tracas. Les 8 jours qu'il passe auprès de cette mauvaise tête, comme il le décrit, sont un véritable supplice. Il faut reconnaître que Jacques Armand Dupin n'est pas un garçon facile et cause déjà bien des soucis à ses parents. Rousseau consent toutefois à veiller sur lui, heureux de pouvoir obéir à Louise. Il parvient à gagner son affection et se fait engager désormais comme son secrétaire personnel. Jean-Jacques Rousseau n'a pas trouvé la gloire, mais il est au moins à l'abri du besoin. Il continue cependant ses compositions musicales et n'a pas oublié son rêve de célébrité. À moins qu'il ne fasse une carrière politique. Car au mois de juillet 1743, le duc de Montaigu, qu'il a rencontré à Paris, vient d'être nommé ambassadeur à Venise et il propose à Rousseau de l'assister dans sa charge. Et c'est le départ pour l'Italie, ses spectacles et ses fêtes. Rousseau est ébloui, mais il se donne très vite une importance qui déplaît à Montaigu et se fait congédier dès la première année. De retour à Paris, Rousseau renoue avec les Dupin et sert de nouveau de secrétaire à Louise, visiblement toujours pas rancunière. Commence alors pour Rousseau une longue période de travail. Jour après jour et selon des instructions précises, il lit des ouvrages, prend des notes, sélectionne des passages. Quand il n'arpente pas les couloirs des bibliothèques, il est à l'hôtel des Dupin, rue de la Plâtrière, où il écrit sous la dictée. Le travail est long et fastidieux, mais Rousseau s'y adonne avec zèle, heureux de pouvoir ainsi assurer sa subsistance. En 8 ans, Rousseau ne lit pas moins de 200 livres et rédige près de 1200 feuillets de documentation préparatoire au livre de Louise. Un livre qui ne paraîtra jamais. Le secrétaire aura donc travaillé 8 années à un manuscrit qui ne connaîtra jamais le succès. Le succès, Jean-Jacques Rousseau s'apprête lui à le vivre, car en parallèle de son travail de secrétaire, il participe en 1750 à un concours, celui du prix de morale de l'Académie de Dijon, qui va bientôt lui ouvrir le chemin de la célébrité. C'est un discours tout à fait étonnant que tient Rousseau pour répondre à la question du concours qu'il découvre dans le journal alors qu'il se promène dans le bois de Vincennes en direction du fort où réside son ami Diderot, qui n'a pas encore écrit son encyclopédie qu'il vient visiter. Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs ? La question posée par le jury est un choc. Elle sonne comme une révélation qui s'abat soudain sur lui et qui le marquera toute sa vie. Et si la culture et la science, au lieu de rendre l'homme vertueux, l'avaient corrompu, se demande-t-il. Oui, Rousseau en est désormais convaincu. L'homme est bon par nature. C'est la société qui le corrompt. L'illumination de Vincennes, comme il l'appellera plus tard, fait naître un écrit totalement nouveau, en rupture avec les philosophes de son temps qui prônent la raison et la science. Il est tellement unique, ce discours, que le jury lui décerne le premier prix. C'est le début de la renommée pour Rousseau. Enfin reconnu, il décide de mettre fin à ses laborieux travaux de secrétaire. Fini les journées passées à compiler, copier, rédiger pour un autre. Désormais, c'est de sa propre plume qu'il souhaite vivre. Et le pari s'avère gagnant puisque, au-delà de ses idées, ses compositions musicales commencent à être reconnues. Louis XV assiste en personne à l'un de ses opéras. Quelques années après, en 1754, son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes remporte à nouveau la première place à l'Académie de Dijon. Publié l'année suivante, il achève de le rendre célèbre. Jean-Jacques Rousseau n'en oublie pas Louise pour autant. Et dans le récit qu'il fait de sa vie, il se remémore le temps passé avec elle et en fait l'un des rares portraits qui nous soit parvenu. Publié à sa mort en 1782, ses confessions connaissent un large succès et mettent en lumière la personnalité et le travail de Louise Dupin. Elle l'avait engagé alors qu'il était totalement inconnu, mais lui aura permis qu'elle ne tombe pas dans l'oubli.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jean-Jacques Rousseau, nous avons le plaisir d'accueillir sur Europe 1 celui qui a publié les manuscrits que Rousseau a rédigés sous la dictée de Louise Dupin. Bonjour Frédéric Marty.
Bonjour Stéphane Bern.
Vous êtes professeur de lettres et vous avez en effet publié des femmes de Louise Dupin chez Payot. Je le disais, Rousseau a écrit sous sa dictée ce grand livre qualifié aujourd'hui de féministe. Pourriez-vous en quelques mots résumer la pensée de Louise Dupin ? Que demandait-elle pour les femmes ?
Oui, j'ai publié le livre sur les femmes qui était resté inédit depuis presque 3 siècles. Qu'y trouve-t-on ? D'abord, une pensée de la stricte égalité des sexes, physique, intellectuelle et morale. Ensuite, une pensée encyclopédique, comme vous l'avez dit. Il s'agit de faire le tour du monde de la condition féminine à toutes les époques et sur tous les continents. On y trouve enfin un grand projet de réforme de la société en faveur des femmes. Réforme institutionnelle, c'est celle de la loi salique afin que les femmes puissent gouverner le pays. Réforme des contrats de mariage dans le sens de l'égalité. Louise Dupin veut réformer les lois, mais aussi les mentalités. Il faut corriger les clichés misogynes que l'on trouve dans les livres, dans les arts, au théâtre, à l'opéra, mais aussi dans le langage. Il faut surtout réformer l'éducation des filles pour qu'elles puissent avoir les mêmes programmes scolaires que les garçons. L'objectif final, c'est l'égalité professionnelle. Une femme doit pouvoir devenir avocate, académicienne, générale d'armée ou même évêque.
Mais sait-on ce que Jean-Jacques Rousseau pensait des idées de Louise Dupin ? Ses propres écrits semblent aux antipodes parfois de ce qu'elle défend, puisque lui a des positions assez rigides sur le rôle des sexes.
Oui, tout à fait. Rousseau est a priori éloigné de la thèse de l'égalité des sexes défendue par Louise Dupin. 8 ans après la fin de son secrétariat chez les Dupin, Rousseau publie la lettre à d'Alembert, très sévère à l'égard des femmes qui tiennent des salons littéraires. En 1762, dans l'Émile, il dit que l'homme est fort et que la femme est faible. Cependant, il y a une ruse de la nature qui fait que la femme n'est faible qu'en apparence, car c'est elle qui décide ou non de satisfaire les désirs physiques de l'homme. Il faut noter aussi que pour Rousseau, la femme a un rôle crucial, celui de mère de famille. C'est elle qui tempère son mari, qui tempère les enfants et qui maintient l'harmonie dans la famille. Sa grande force, c'est sa vertu. Des œuvres mineures de Rousseau, comme sa comédie Narcisse, montrent cependant que Rousseau avait visiblement une vision moins rigide qu'on ne le croit dans sa pensée sur les sexes. Il est aussi sensible au thème de l'ambiguïté sexuelle.
Est-ce qu'inversement, on sait ce que Louise Dupin a pensé des œuvres de Jean-Jacques Rousseau ?
Alors, c'est plus difficile, mais il faut distinguer deux thèmes, celui de la condition féminine et celui de la politique. D'abord, le féminisme. On n'a aucune trace d'un éventuel désaccord entre Rousseau et Louise Dupin. Leur correspondance reste très courtoise jusqu'au bout. En matière de politique, elle semble plus proche des idées de Voltaire que de Rousseau. Elle apparaît même comme une tenante de la monarchie, du régime en place. Elle est cependant capable d'envisager des réformes dans le sillage de l'abbé de Saint-Pierre, son mentor. Il y a un domaine où le modèle républicain vaut mieux que le modèle monarchique, c'est le couple. Une égalité républicaine devrait régner entre les époux. Le mari ne doit pas être un petit monarque à la maison. L'égalité est une idée qui fait son chemin au XVIIIe siècle.
Frédéric Marty, comment travaillaient Louise Dupin et Jean-Jacques Rousseau ? Quel était exactement son rôle comme secrétaire ? On a l'impression qu'il était un peu son ghostwriter.
Alors, il faut dire que Louise Dupin est le seul cerveau de l'ouvrage sur les femmes. Vous l'avez dit, mais Rousseau n'est qu'un secrétaire. Il a deux tâches principales. La première, c'est de copier sous la dictée, puis de mettre au propre les 47 chapitres de l'ouvrage sur les femmes. La seconde tâche, c'est de faire des recherches en bibliothèque. C'est un travail monumental, un travail de bénédictin, qui représente plus de 1000 feuillets manuscrits. Ces manuscrits sont précieux. Il nous informe sur les lectures et la culture livresque de Rousseau alors qu'il est encore inconnu. Il apparaît qu'il dépouille des livres dans des domaines très divers. D'abord, l'histoire de l'Église. Quelle est la place que les femmes ont pu y tenir ? Ensuite, l'histoire politique de nombreux pays, ainsi que les récits de voyage. Les livres de droit aussi. Rousseau travaille même à résumer l'histoire des Amazones, ces guerrières légendaires de l'Antiquité.
Est-ce qu'on sait pourquoi Louise Dupin n'a jamais publié ses écrits ? Est-ce qu'elle craignait la réaction de ses contemporains ?
Il était compliqué effectivement de publier pour les femmes de l'époque. C'était particulièrement risqué pour Louise Dupin pour deux raisons. D'abord, elle occupait une position sociale éminente, il fallait éviter le scandale. Ensuite, ses idées étaient transgressives. Songez qu'elle était contre le célibat des prêtres, qu'elle était favorable au divorce en cas de nécessité. Elle s'en prenait à toute la tradition misogyne depuis 3000 ans. Elle n'hésite pas à critiquer Aristote, Platon, Hippocrate. De plus, elle a participé à la réfutation de l'esprit des lois de Montesquieu dès sa parution en 1749. Dupin considère que Montesquieu expose des idées qui ne sont pas toujours favorables aux femmes. Elle estime qu'il tente à justifier la polygamie en Orient. Cet ouvrage de réfutation de l'esprit des lois a été assez mal accueilli. Montesquieu serait intervenu en ce sens. Sans doute que Louise Dupin ne souhaite pas renouveler cette expérience.
Dans la préface de son livre « Des femmes » que vous signez, vous écrivez que Louise Dupin appartient à un courant minoritaire du féminisme de l'époque, tenant de la stricte égalité. C'était donc quoi le courant majoritaire ?
Alors, il faut le répéter, au XVIIIe siècle, la société en général considère que les femmes sont inférieures, physiquement et intellectuellement. Le courant féministe majoritaire soutient, par contrepoids, que ce sont les femmes qui sont supérieures. C'est le cas notamment des précieuses, de certaines précieuses du XVIIe siècle. Louise Dupin, au contraire, prône la stricte égalité des sexes. Ils sont très peu nombreux dans ce cas. En cela, elle est la disciple du grand féministe François Poulain de la Barre. C'est un philosophe cartésien qui a écrit « De l'égalité des sexes » en 1673. Elle corrige Poulain de la Barre qui parfois soutient la supériorité des femmes. Bref, elle a une pensée vraiment originale, vraiment singulière.
Frédéric Marty, vous êtes le premier à avoir publié les écrits de Louise Dupin plus de 250 ans après que Rousseau les a rédigés sous sa dictée. Comment expliquez-vous que ces écrits n'ont pas été publiés plus tôt ? Pourquoi est-ce qu'elle est restée dans l'ombre des Lumières, en fait ?
Les manuscrits ont été conservés par les héritiers pendant deux siècles, notamment au château de Chenonceau. En 1884, un héritier de Louise Dupin, Villeneuve-Guibert, publie quelques petits traités de morale de Louise Dupin, mais aussi sa correspondance avec de grands auteurs. Il n'est visiblement pas d'accord avec les thèses féministes de Louise Dupin, il ne les publie pas. Dans les années 1950, la société française semble être prête à lire Louise Dupin. Cependant, les héritiers mettent aux enchères ces manuscrits qui vont être dispersés entre l'Europe et les États-Unis. Mon travail a été de reconstituer ce grand puzzle en voyageant. J'ai transcrit les manuscrits afin de les publier l'an dernier chez deux éditeurs, Payot et les Classiques Garnier.
Alors, la pensée de Louise Dupin semble entrer en résonance avec des débats très actuels. Comment ont été accueillis ces écrits depuis que vous les avez publiés l'an dernier ?
Il y a une vraie curiosité pour les idées de Louise Dupin aujourd'hui. Je dirais même que Louise Dupin commence une carrière internationale. Des extraits ont été publiés en polonais, une édition anglaise de l'ouvrage sur les femmes va paraître l'été prochain aux États-Unis. Il est vrai que les idées de Louise Dupin étaient novatrices. Pour elle, les femmes ont joué dans le passé un rôle plus important qu'on ne l'imagine. La recherche actuelle donne du crédit à cette thèse. Prenons le cas de la préhistoire. La science de la préhistoire a été mise au point au XIXe siècle par des hommes. Ils avaient souvent les préjugés de leur temps au sujet des femmes. Cela a influencé leur recherche. On réévalue aujourd'hui le rôle des femmes dans les sociétés préhistoriques. Ainsi, une étude de 2018 montre que 30 à 50% des femmes ont pu être des chasseurs de gros gibier sur le continent américain. Les thèses de Louise Dupin, fantaisistes pour le XVIIIe siècle, apparaissent comme avant-gardistes aujourd'hui.
Votre but, c'est quoi ? C'est au fond qu'elle sorte de l'ombre et que, quand on parle de Louise Dupin, elle soit renommée comme une vraie philosophe des Lumières et pas seulement comme une figure croisée dans les confessions de Rousseau ?
Oui, tout à fait. Il est vrai que Louise Dupin est une philosophe majeure en matière de défense des femmes au siècle des Lumières. Elle est une philosophe des Lumières tout court, comme les grands penseurs de son époque. En effet, elle partage les grandes idées des Lumières. Le culte de la raison, la lutte contre les préjugés, la critique des autorités intellectuelles, l'optimisme philosophique. Que peut-on souhaiter pour Louise Dupin ? Qu'elle soit lue ? Qu'elle rejoigne Olympe de Gouges parmi les grandes féministes du XVIIIe siècle. En effet, sa pensée féministe a peut-être une ampleur supérieure à celle de Gouges. De mon côté, il s'agit de continuer à publier ses manuscrits, ses œuvres morales, sa correspondance, je l'espère. On n'a pas fini de découvrir la pensée de Louise Dupin.
Merci beaucoup Frédéric Marty. Je rappelle que le discours préliminaire de Des femmes que vous avez préfacé est disponible aux éditions Payot.
Merci beaucoup. À vous.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours sur Europe 1, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Tout à fait. Pour l'indice musical du jour, je vous propose du Sacha Distel.
On s'en souviendra de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin.
Vous connaissez ça ? Non, vous faites semblant, Stéphane.
Je fais semblant, bien sûr.
Oh, qu'est-ce que... ah, il est vachement fort.
On devine vite les paroles en même temps.
Et la Saint-Valentin. Hein.
Je n'ai jamais entendu cette chanson de ma vie. Hein.
Ah, c'est vrai ?
Vous n'avez pas réécouté tout, Sacha Distel ?
Comme c'est étrange. Eh bien, écoutez, il y aura une question assez surprenante sur la Saint-Valentin tout à l'heure.
Ah, très bien. Mais juste avant, eh bien, je vais laisser la parole à Clémentine Portet-Kaltenbach pour qu'elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, puisqu'on parle de secrétaire vraiment particulier, vous nous racontez, vous, celui qui fut le premier secrétaire de Napoléon. Mais pas le premier à occuper la fonction, c'était
non.
Le baron Fin.
Ben oui, il a succédé à Menval, le baron oui. Fin. Mais ce qui est très précieux, c'est qu'il nous a laissé non seulement des livres, mais des mémoires. Il était premier secrétaire du cabinet de l'empereur. Le cabinet de l'empereur, c'était donc l'organe chargé d'accompagner Napoléon dans son travail quotidien. Et donc, du jour où il succède à Menval, il ne quitte plus Napoléon, il est près de lui nuit et jour. C'est un homme très discret, très travailleur. Vous voyez, c'est un peu moi, quoi. Oui. Voilà, discrète et travailleuse. Oui, oui. Il est entré au service de Bonaparte dès le coup d'État du 18 Brumaire et il a fait une rapide et très, très belle ascension pour devenir premier secrétaire. Pendant la campagne d'Autriche, notamment, il est devenu franc-maçon. Et alors, à l'époque, ça a aidé beaucoup. Et tous les maréchaux de Napoléon, tous francs-maçons, donc il est sans doute un peu rentré par calcul. Ça, c'est bien possible. Comment se déroulait la journée de travail ? Alors, prenons l'exemple des Tuileries, puisque ça nous a donc été raconté par le menu. Alors, le baron Fin rentrait. Il prenait place à sa table, le dos tourné à l'empereur. Donc, il ne voyait jamais Napoléon, en fait. Il lui tournait le dos constamment, mais il l'entendait aller, venir, marcher, gronder, froisser des papiers. Ponctualité absolue, naturellement requise, parce que Napoléon rentre dans le bureau vers 7h du matin. Mmh. Donc, son secrétaire est déjà là avant lui. Quand l'empereur arrive, bien sûr, il se lève. Nous, on fait pareil avec Jean-Luc dans le studio. Quand Stéphane rentre, et on se lève. Voilà, bien sûr, c'est normal.
Parce que je suis là avant vous.
Parce qu'en plus, c'est vrai. Alors, quand l'empereur paraît, il se tient un instant debout, naturellement. Puis, il reprend sa place comme un meuble, hein, parce que finalement, le baron Fin, pour Napoléon, c'est à peu près, ouais, c'est un meuble. On a bien des égards, hein. on est très proche de lui, n'est-ce pas Jean-Luc, hein. Et à ce moment-là, il se saisissait d'un paquet de feuilles blanches. Et alors là, Napoléon disait tout d'un coup « Écrivez !» et le baron Fin prenait une de ses feuilles blanches. Et alors là, c'était parti. C'était un travail affolant. Parce que Napoléon dictait à toute allure et son monologue ressemblait à une sorte de charabia bredouillé. Il parlait si vite que la plume ne pouvait le suivre. Il fallait aller au plus vite et puis parfois au pif pour ne pas être débordé par les phrases qui se heurtaient, se coupaient, s'enchevêtraient. C'est très compliqué d'être secrétaire d'un grand homme qui dicte vite comme ça. Il faut savoir renoncer à certains mots qu'on n'a pas bien compris, laisser des blancs et puis dès que la personne reprend un peu son souffle, essayer de remplir ensuite les blancs et voir, essayer d'imaginer à peu près ce qu'il a voulu dire, parce que très souvent Napoléon se trompait sur les noms propres notamment.
Fin, on ne peut pas l'oublier.
Il se trompait sur les noms des villes polonaises beaucoup.
Mais
l'orthographe, et puis parfois, écoutez, quand vous êtes en suractivité, comme ça, vous dites un mot pour un autre, et donc c'est à votre secrétaire de rétablir la vérité.
Sauf que le secrétaire ne l'accompagnait pas sur les champs de bataille.
L'accompagnait partout. Ah oui. En tout cas, là, dans le bureau des Tuileries, Napoléon se levait, s'asseyait, parcourait à grands pas la chambre. Alors, il fallait, en lui tournant le dos quand même, et sans pouvoir céder de sa mimique, saisir à la volée des chiffres, des termes techniques, et donc, je disais, des noms propres, notamment tous les noms des villes de campagne qui étaient écorchés quasiment systématiquement, qui étaient rendu absolument méconnaissable. Alors quand la dictée s'arrêtait, je le disais, bon, il essayait de Menval de remettre un petit recopier les griffonnages informes, mais déjà Napoléon se remettait au travail. Il disait allez, expédiez. C'était ça la vie quotidienne du baron. Enfin, et puis il laissait tomber sur le tapis toutes les lettres décachetées parce que quand c'était balancé par terre, alors c'était répondu. S'il sortait un instant vite, Fin se précipitait par terre, il ramassait tout, il rangeait, il classait, il cherchait à comprendre ce qu'il n'avait pu que deviner dans les phrases hachées de l'empereur. En campagne, réponse à votre remarque Stéphane, en campagne, pas de repos. Dès l'arrivée au bivouac, la table du secrétaire était dressée, le travail disposé, le courrier en ordre et l'homme à son poste. Et ça recommençait, expédiez, écrivez. Et bien souvent, le malheureux baron Fin tombait de fatigue sur le coussin disposé sous la tente à son intention. Il a raconté dans ses mémoires qu'un soir après une bataille, accablé de sommeil, il a cru qu'il s'étendait sur un tas de manteaux et en fait, en se réveillant, il se rend compte que son oreiller était un mort de la veille. Il s'était endormi comme ça, si vous vous rendez compte. Là. Alors, au total, un terrible métier, mais quand même, on raconte que Napoléon, un jour, de très bonne humeur, dit à son secrétaire en lui pinçant l'oreille, « Eh bien, vous aussi, vous serez immortel. N'êtes-vous pas mon secrétaire ?» Et l'empereur avait bien raison, les noms de ceux qui vécurent à ses côtés, dans l'intimité du travail, ne périront jamais. Mais on peut reconnaître que c'est un honneur qu'ils ont péniblement gagné, certes, et je le disais tout à l'heure, ils étaient grassement payés. Et nous, un jour aussi, grâce à Stéphane Bern, nous serons immortels.
Enfin, vous auriez préféré être la secrétaire de Napoléon.
Je ne répondrai pas
à ce que vous auriez aimé le côtoyer au quotidien.
Non, parce qu'il était extrêmement misogyne. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il se serait jamais... C'est d'ailleurs étrange, parce qu'il était parfaitement misogyne, et avec les femmes qu'il aimait, était un peu comme un caniche. Mmh. Et avec sa maman également. Mmh. Mais c'est souvent le cas. Mais c'est une autre histoire.
Merci Clémentine. Et maintenant, sur Europe 1, c'est le moment de l'émission où l'on tente de me décrédibiliser, voire de me ridiculiser devant la France entière. Parce que vous savez, Europe 1... c'est toute la France qui nous écoute. Eh bien, c'est Born to be Alive.
C'est pas que la France, c'est aussi les pays proches. Je vous assure, j'ai fait un portrait d'une Anglaise, elle m'a écrit sur Instagram.
Non, c'est vrai. Moi aussi, à propos de Juan Carlos.
Moi, c'est sur Annabelle Bennett, elle m'a écrit.
Et elle me dit du mal, parce que vous avez... C'est une Espagnole qui m'écrit en anglais.
Ah, je suis content d'être détesté à l'international. vraiment, ça fait du bien. Merci beaucoup,
tout cas,
Stéphane.
On sait que Europe 1 est écouté au-delà des frontières.
Exactement. Bon, en tout cas, c'est pas du tout le principe de ce quiz.
Non.
Ce quiz, c'est un quiz qui va nous permettre d'apprendre tout en nous amusant avec moult anecdotes historiques. Après, si vous plantez totalement Stéphane, j'avoue que ça peut me faire sourire. Alors ne me décevez pas, on va jouer. On commence avec vous. La péninsule russe de Yamal s'avance sur 700 km dans l'océan Arctique depuis la Sibérie occidentale. En 2007, un ENETS, Un habitant du coin découvre un bébé mammouth laineux, congelé vieux de 41 800 ans.
Oui.
Et pourtant, il ne le touche pas. Pourquoi il ne le touche pas ? Plusieurs propositions. Il a dit que ça portait malheur, il a dit qu'il lui rappelait sa femme, ou il a rien dit, il a appelé son cousin qui en a fait un manteau.
Je pense qu'il a pensé que ça portait malheur et qu'il n'a pas touché, il n'a pas voulu y toucher, c'est ça.
Ça portait malheur, on vérifie.
Vous avez gagné. Bon,
oui, c'était la réponse la plus évidente et vous avez bien fait de la choisir. Il ne l'a pas touché, ça porte malheur selon le peuple Nenets. Il est allé chercher le directeur du musée le plus proche. Le temps de revenir, le bébé mammouth a été volé.
Ah.
Voilà. Mais retrouvé peu de temps après, juste avec une oreille en moins quand même.
Ah bon, quand même.
Ouais, les chiens du voleur les ayant grignoté, les oreilles du mammouth. C'est quand même dommage.
Ah, hein, intéressant.
Ils aiment le surgelé, les chiens.
Non, c'est pire que ça, vous savez. Mes chiens, par exemple, adorent les animaux empaillés. Et ils les bouffent, ils ne savent pas qu'ils sont empaillés.
Mais vous avez beaucoup d'animaux empaillés chez
vous ? Non, mais chez les autres. C'est-à-dire, si vous m'invitez, évitez d'avoir des animaux empaillés.
Mais excusez-moi, c'est bien des teaux qu'à la poêle rat.
Donc ils s'attaquent dur. Oui, ils sont des chasseurs.
D'accord. Et ils s'attaquent à quelle taille d'animal ?
Aux sangliers.
Ils sont des chasseurs civilisés, ils ne s'attaquent qu'aux animaux empaillés.
Ouais. Ils ne font pas la différence. Ils disent, tiens, voilà, en voilà un qui ne résiste pas. Et donc, ils le boulotent.
Une question pour Clémentine. En 1938, dans le Code civil, la notion de devoir conjugal disparaît, en tout cas dans les textes. Vrai ou faux ?
Écoutez, il y a dû avoir un certain nombre de mesures prises en 38, puisque je crois me souvenir que l'obligation pour une femme mariée d'avoir l'autorisation de son mari pour pouvoir s'inscrire à l'université, c'est 1938. Alors, il y a quand même les devoirs des époux, mais
le devoir conjugal, c'est d'être obligé de faire l'amour quand
c'est
son mari
le veut. Mais le devoir conjugal, est-ce que le devoir conjugal figurait dans le code civil de Napoléon ? Croyez, Stéphane, il y avait quelque chose sur la femme doit remplir son devoir conjugal ?
Vous l'avez dit, elle était misogyne.
Non.
Ah, vous avez un
doute
d'un seul
coup. Non, maintenant j'ai un doute, je dis non. Non.
Vous dites non ? Allez, non.
Vous avez gagné.
Vous avez bien fait, le devoir conjugal n'a jamais existé. En tout cas, pas formellement. Par contre, les juges ont rendu plusieurs arrêts en estimant que les époux s'obligeant mutuellement à une communauté de vie s'engagent à une communauté de toit et de lit. Ainsi, en 2019... la cour d'appel de Versailles a prononcé un divorce au tort exclusif d'une femme de 66 ans, car elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari.
Ah oui ?
Ah oui, en 2019. Hein.
Eh ben.
Je crois qu'on ne pouvait pas dire mieux que ça. Une question pour vous, Stéphane. L'année dernière, cela fait 70 ans que la Grèce et la Turquie ont fait leur entrée dans l'OTAN. L'année dernière aussi, on a fêté les 70 ans de Jean Roucas. Si Jean Roucas s'appelle Jean Roucas, c'est que son oiseau préféré était le choucas. Mais petit, il n'arrivait pas à prononcer le nom du volatile. Donc il appelait Roucas. Vrai ou faux ?
Ah, ça c'est une question.
Je ne peux pas avoir plutôt la question sur la Grèce et la Turquie, ça m'intéresse davantage.
Non, j'ai essayé de vous intéresser au début là-dessus.
Et puis, tiens, ça démarre bien.
Voilà.
On va parler de... Moi je dirais non.
Vous diriez non ?
Non, je vois pas le rapport entre Roucas et choucas.
Moi je dirais oui.
Ah, voilà, je la retrouve, ma Clémentine.
Vous vous souvenez, dans son émission, il y avait toujours un corbeau qui est présent, là. C'était peut-être une allusion.
Vous parlez quoi, du bébé de chaud ou des roucasseries ?
Du bébé de chaud.
Ah oui, mais c'est parce qu'il n'y avait que des animaux. En même temps, il y avait aussi un cochon.
Ouais.
Il y avait Georges Marché, Piggy la cochonne. Alors ?
J'y crois pas trop, mais je ne sais pas, je ne connais pas Jean Roucas.
Donc vous dites non. On vérifie.
Vous avez encore gagné.
Eh bien oui, vous avez gagné. Il tient son nom du quartier de Marseille, le Roucas Blanc. Où Jean a passé son enfance.
Voilà. Vous avez voulu
Non, parce que je savais qu'il y avait il y avait une anecdote autour de son nom de famille, mais j'avais oublié laquelle.
Laquelle, bien sûr.
Et le corbeau, je précise, mais c'était Michel Rocard dans le bébé de chaud.
Oui.
Eh ben un choucas, oui, c'était pas absurde. Hein. Moi, j'aurais sincèrement répondu oui. J'ai pas du tout voulu vous manipuler.
Un petit peu quand même. Mais je vous retrouve bien là. Une question pour vous maintenant. Je vous ai parlé de la Saint-Valentin tout à l'heure. On y vient. Parfois, à travers l'histoire, les massacres ont des noms bizarres. Ainsi, en 1952, il y a eu le massacre de la Saint-Valentin. Vrai ou faux ?
Vous avez entendu parler d'un massacre de la Saint-Valentin en 52 ? Et qu'est-ce que ça aurait été en 52 ? Où ça ? Vous pouvez me préciser le pays ?
Un territoire français, tout ce que je peux vous dire.
En Corse, peut-être. En Nouvelle-Calédonie ? Oui. y a eu...
Oui, en Nouvelle-Calédonie, c'est ça la réponse ou...
Non, je dis oui, il y a bien eu un massacre de la Saint-Valentin français en 1952.
D'accord, vous pouvez nous en dire plus ou...
Non, parce que ça serait trop long.
Quel escroc. Allez, on vérifie.
Vous avez...
Encore gagné ?
Bah oui, bravo. Ça c'est comme Jean
Total
Oka,
bluff.
C'est la base.
Total bluff, ça s'est passé en Guadeloupe.
Ah, voilà.
Lors d'une grève dans une usine de sucre, les employés demandaient une augmentation de salaire. Il y a eu des barrages, des piquets de grève, bilan, 4 morts et 14 blessés.
Ah la vache.
On a appelé ce massacre de la Saint-Valentin, car il est évidemment survenu le 14 février 1952. Mm. Il va falloir une question pour vous départager.
Oui.
Le président Jimmy Carter... même quand il ne l'était plus, jouissait d'une forte popularité auprès des Américains. Si Barack Obama possède un manoir de 8 millions de dollars à Washington DC, et Bill Clinton plusieurs maisons de plusieurs millions de dollars, combien vaut l'unique ranch de Jimmy Carter ?
2 millions de dollars.
Ben, j'allais dire 1, parce que c'est peut-être qu'il n'avait pas le même... À moins que ce soit un truc absolument gigantesque. Eh ben...
Vous avez dit combien, Stéphane ?
Il a dit 2. Bah ouais. Écoutez, moi je vais dire 20, autant aller très très loin et beaucoup plus cher.
Exactement, et vous avez bien fait, car vous avez perdu. Et vous êtes tous très loin de la vérité. En fait, le ranch vaut 167 000 dollars.
Ah oui.
Ah.
Il y a 2 chambres, Jimmy et sa femme Rosaline aimaient boire du vin bon marché et pique-niquer dans des assiettes en carton avec leurs voisins. Ils faisaient eux-mêmes leur propre yaourt. Prenez-en de la graine, Stéphane.
Mmh. Bah, Stéphane, il fait des cheesecakes, c'est pareil que faire du yaourt.
Oui,
hein.
Absolument. Exactement. Ils font pitié, donc... Bon, j'ai gagné, c'est essentiel.
Non, pas du tout, vous étiez trop loin. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'on avait perdu tous les deux parce que vous étiez trop loin.
Non, c'est Stéphane qui a gagné.
Il était vachement loin. Non, franchement, à ce niveau de...
C'est le principe du jeu.
Non.
Vous contestez les règles.
Mais oui, c'est
dans
ça.
Quelques instants, vous saurez, chers auditeurs, si Clémentine a été punie ou pas. Et historiquement, votre continue sur Europe 1 avec nos secrétaires vraiment particuliers du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Il est de ces hommes qui auront travaillé dans l'ombre, un de ces soutiens dévoués et fidèles sur lesquels bien des grands hommes se sont appuyés avant de marquer l'histoire. Je vous raconte maintenant sur Europe 1 Daniel Cordier, le secrétaire particulier et surtout clandestin de Jean Moulin. Nous sommes à Lyon au mois d'août 1942. Toute une partie de la France est occupée par les Allemands. L'heure est grave. Dans un bureau, deux hommes discutent. Oh non, ce n'est pas de la guerre dont ils parlent, ni de l'avenir de la France. En dressant l'oreille, on peut entendre résonner les noms de Renoir, Cézanne ou Picasso. Oui, ce qui intéresse nos deux interlocuteurs, c'est l'art. Quand ce sera fini, je vous emmènerai au Prado. Vous verrez ce que c'est que la peinture, lance l'un d'eux. Ce ne sont pourtant ni les toiles, ni les artistes qui les intéressent à ce moment précis. L'échange était bien plus grave tout à l'heure. Mais voilà, les deux hommes ne sont plus seuls maintenant. Un autre les a rejoints. Un autre qui ne fait pas partie de leur cercle d'intime. Dès qu'il est apparu, le ton a soudainement changé et la conversation s'est faite plus légère. Ce qu'ignore ce nouveau venu, c'est qu'il vient d'interrompre un échange de la plus haute importance. Car le bureau dans lequel il vient de pénétrer n'est autre que celui de Jean Moulin, le célèbre chef de la résistance française, en pleine discussion avec son secrétaire particulier, Daniel Cordier. C'est en effet une habitude comprise le résistant et son secrétaire dès qu'ils sont dérangés dans leurs affaires. L'art réunit les deux hommes par un attrait commun, et il leur est ainsi facile d'entamer au pied levé une discussion sur le sujet. Mais ce qui lie Jean Moulin à son secrétaire, c'est surtout le même refus de voir la France cesser le combat et se plier à l'envahisseur allemand. Le choc s'est fait chez Daniel Cordier 2 ans plus tôt, le 17 juin 1940. Il n'a pas encore 20 ans, mais il est déjà fervent patriote et appartient à la droite maurrassienne. Debout, avec sa mère en face du poste radio, il attend le discours du maréchal Pétain. Celui-ci est annoncé pour 12h30. Aussi, une voix grésillante ne tarde pas à se faire entendre. « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat », énonce le vainqueur de Verdun. Sa mère s'effondre, lui court au premier étage, se rue dans sa chambre et se jette sur son lit en sanglotant. « C'est impossible, se dit-il, on va la gagner cette guerre !» Plus déterminé que jamais, il rassemble une quinzaine de camarades et rejoint Bayonne, d'où il s'embarque pour l'Angleterre. C'est là-bas qu'il retrouve la Légion de Gaulle qui vient d'être constituée. Et c'est parti pour un entraînement militaire intensif. Les jeunes hommes doivent devenir des soldats en un temps record. Dans quelques temps, ils rejoindront l'Afrique du Nord et il leur faut être fin prêt pour revenir en France en découdre. C'est du moins ce qu'ils pensent et qu'ils espèrent plus que tout. Mais les jours et les mois passent et le départ se fait attendre. Daniel Cordier brûle de se battre et, pour reprendre ses mots de tuer du Bosch, comme il le racontera plus tard à longueur d'interview, il trouve le temps long et l'attente insupportable. C'est alors qu'un camarade lui propose de rejoindre les services secrets de la France libre à Londres pour être parachuté sur la France. « J'ai claqué les talons comme jamais, j'ai salué la perfection, j'étais au ciel », racontera-t-il des années après. Un mois plus tard, Cordier entre dans les services secrets, mais il lui faut attendre encore un an pour entrer pleinement dans la lutte. Un soir, il reçoit un appel de son capitaine. C'est pour ce soir. Parachuté près de Montluçon, le 26 juillet 1942, Daniel Cordier a pour mission d'entrer en contact avec le chef de l'agence de presse de la Résistance pour lui servir de secrétaire. Mais c'est sans compter avec sa rencontre avec Jean Moulin. Du fameux chef de la Résistance, il ne connaît que le nom de code, Rex. Mais le jeune soldat fraîchement débarqué de Londres n'est pas indifférent au grand Rex. Et lorsqu'il lui demande « Êtes-vous libre à dîner ce soir ?», bien qu'étonné, Daniel Cordier accepte de bon cœur. Et il se voit bientôt assailli de questions. Que faites-vous à Lyon? Quand voulez-vous continuer la lutte? Les interrogations fusent, mais le jeune homme répond avec une sincérité, une détermination qui séduisent son interlocuteur. Et il est 11h du soir lorsque les convives se séparent. Vous revenez demain matin à 7h. Je vous garde comme secrétaire, lance Rex. Daniel Cordier n'en revient pas. À 22 ans, le voilà propulsé secrétaire du représentant personnel du général de Gaulle pour la France libre. La charge est immense et surtout risquée, il le sait. Il s'agit pour lui d'assurer les liaisons radio avec Londres, de répondre aux courriers et d'assister Rex, le tout dans le plus grand secret. Sous le nom de code d'Alain, il établit en quelques mois un véritable état-major clandestin. Officiellement, Jean Moulin est un marchand de tableaux, ce qui rejoint chez lui une véritable passion pour la peinture. D'où les savants entretiens sur les grands peintres de l'histoire qu'il a avec son secrétaire. Avant sa rencontre avec Rex, Cordier restait indifférent à l'art, mais son patron aura su lui en donner le goût. Un goût qui le poussera à faire de la peinture sa raison d'être, d'abord en tant que collectionneur, ensuite en tant que galeriste. En effet, l'art est au cœur de la nouvelle vie de Daniel Cordier, celle qui commence après la guerre, une fois la France libérée par les Alliés. La guerre, il ne veut plus en entendre parler, il en a trop souffert. De Jean Moulin, mort en juillet 1943 dans un convoi en partance pour l'Allemagne et dont il n'apprendra l'identité qu'à la fin de la guerre, Cordier garde une estime solide, mais aussi un goût très fort pour la peinture et les artistes. Jouer au marchand d'art pour camoufler sa vie de résistant ne lui a pas déplu au fond. Et les discussions qu'il a eues avec lui sur le sujet ont souvent été plus qu'une simple dissimulation, et les deux hommes se sont souvent pris à leur propre jeu, au point d'échanger des avis sincères sur le sujet. C'est ainsi qu'au sortir de la guerre, il reprend, mais cette fois pour de vrai, l'activité qu'il exerçait en couverture. Désormais fasciné par l'art, il achète quantité de tableaux qu'il expose et revend dans les galeries qu'il ouvre peu à peu à Paris, Francfort et même New York. Mais ses souvenirs de guerre le rattrapent. En 1977, lors d'un débat au dossier de l'écran, émission qui bénéficie d'une large audience, le résistant Henri Freinet accuse Rex d'avoir été un agent à la solde des Soviétiques. L'accusation met Daniel Cordier hors de lui. Il veut absolument rétablir ce qu'il considère comme une injustice. Le marchand d'art se fait alors historien. Il examine avec minutie toutes les archives de son ancien patron et en tire une monumentale biographie de Jean Moulin qui vient rétablir la vérité. Lui meurt bien plus tard, en 2020, à l'âge canonique de 100 ans, faisant de lui l'avant-dernier compagnon de la libération. La France rend alors un hommage national au secrétaire fidèle qui aura servi Jean Moulin jusque dans son souvenir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Daniel Cordier sur Europe 1, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qu'il a connu. Bonjour Laurent Douzou.
Bonjour.
Laurent Douzou, vous êtes historien de la Résistance, résistance à laquelle Daniel Cordier a pris part à partir de juin 1940 en réaction au discours du maréchal Pétain qui annonçait l'armistice avec l'Allemagne. À ce moment-là, Cordier appartient à la droite maurrassienne. Dans quelle mesure l'expérience de la clandestinité a-t-elle bousculé ses convictions politiques, même si Maurras lui-même appelait à suivre le maréchal Pétain? Beaucoup de royalistes ont suivi le général de Gaulle.
Oui, parce que beaucoup de royalistes étaient de fervents patriotes. Donc, ils ont estimé que Maurras trahissait, en quelque sorte. Et Cordier en est le parfait représentant de ce mouvement-là. Vous dites à partir de quel moment il va muer, en quelque sorte, idéologiquement, politiquement. Juillet 42, quand il est parachuté en France. Parce que là, il va découvrir le monde de la clandestinité, qui est un monde très particulier. Et tout ce à quoi il croyait va petit à petit changer. Et il reste antisémite, peut-être jusqu'en 42. Ensuite, il cessera de l'être et il deviendra ce qu'on pourrait appeler un progressiste.
À partir de juillet 1942, je l'ai raconté, Daniel Cordier devient donc le secrétaire de Jean Moulin. Quel est précisément son rôle à ses côtés ? Il est son plus proche collaborateur, il prend des notes, il écrit. J'ai raconté quelques bribes, mais que fait-il réellement ?
Alors, il prend sûrement pas de notes, parce que ça serait trop dangereux. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est une sorte de factotum. C'est son collaborateur le plus proche, mais il s'occupe de tout. Le matin, il lui apporte les journaux, il lui apporte aussi du pain pour son petit déjeuner. Puis, ils discutent tous les deux, ils décodent tous les messages qui ont été envoyés. Moulin lui donne ceux qu'il veut envoyer, il les codera ensuite. Et puis, ce sera toute une journée de rendez-vous en rendez-vous avec aucune note, mais une mémoire prodigieuse. Daniel Cordier avait la particularité d'être capable de mémoriser quantité de choses. Et donc, c'est son travail, c'est ça. C'est un travail de petite main, mais absolument essentiel, parce que c'est ça qui permet à Moulin d'être en contact avec les autres éléments de la résistance.
Jean-Luc,
où se trouvait Daniel Cordier quand Jean Moulin était arrêté le 21 juin 1943 ?
Alors, il se trouvait à Paris, à la station de métro des 11, qui raconte dans ses mémoires alias Caracalla. Et c'est un de ses camarades qui lui a appris la chute de son patron.
Mais ce qui est fou, c'est que ce n'est qu'à la fin de la guerre que Daniel Cordier apprend la véritable identité de celui qu'il appelait Rex, Jean Moulin donc. La réalité correspondait à ce qu'il avait imaginé ?
Alors lui a écrit que pas du tout. Il pensait que c'était un homme très important dans le domaine de la politique, de l'administration ou de la peinture, puisqu'ils avaient beaucoup parlé peinture. Et il s'est aperçu que c'était un préfet. Alors un préfet, c'est pas rien. Je veux dire, c'était un serviteur de l'État. Et il a été déçu. Et il a dit, au fond, c'est un inconnu. Et c'est pour ça qu'il a appelé son travail Jean Moulin, l'inconnu du Panthéon. Parce qu'il était frappé par la disproportion qu'il y avait entre les responsabilités que cet homme avait exercées et puis la fonction qu'il exerçait avant-guerre, qui était une fonction de haute administration, mais qui n'était pas du plus haut niveau.
Olivier ?
Oui, quel regard Daniel Cordier portait-il sur Jean Moulin ? Quel homme décrit-il ?
Alors le regard qu'il portait, on le voit très bien à travers les milliers de pages qu'il a écrites, c'est un regard d'une admiration sans borne, inconditionnelle. Mais c'est pas l'admiration de quelqu'un qui comprendrait rien, c'est l'admiration de quelqu'un qui a vu jour après jour ce que faisait Moulin. Or, travailler dans la clandestinité pendant un an, comme l'a fait Moulin, c'est d'une extraordinaire difficulté. Il était préfet, rien n'avait préparé à ça, et donc, pour répondre clairement à votre question, pour Cordier, Moulin est un homme qui, hors de toutes les séries, comme aurait dit le général de Gaulle, c'est quelqu'un qui l'impressionne au plus haut degré.
35 ans après la fin de la guerre, Daniel Cordier, qui a fait carrière dans le marché de l'art, s'est mué en historien. Et c'est vrai que tout a basculé un soir d'octobre 1977, alors qu'il participait à un numéro des dossiers de l'écran sur la deuxième chaîne.
Je voulais apporter des documents. On m'a dit que ce n'était pas le lieu. Mais je pouvais apporter un paquet de documents, car enfin, c'était mon poste, c'était ma fonction.
Vous avez des tas de documents. Je vous supplie.
Mais je vous les donnerai, mais non, je vais les publier.
Attendez, que nous les étudions ensemble. Je suis désolé, je ne veux pas vous faire de peine. Mais mon cher Cordier, vous étiez l'intendance. Et les problèmes politiques, ce n'est pas à vous que j'étais confié.
On entendait là dans cet extrait Daniel Cordier et Henri Freinet. Daniel Cordier a été piqué au vif ce soir-là, n'est-ce pas, Laurent Douzou ? Il s'est senti investi d'une mission.
Ah oui, parce qu'il a face à lui le patron du mouvement combat, le mouvement le plus important de la résistance intérieure, compagnon de la libération comme lui. Et vous avez vu la violence de l'échange avec vous n'étiez que l'intendance. Donc oui, ça pique Cordier au vif, mais ça ne le pique pas parce que son honneur personnel aurait été touché. Ça le pique parce que l'attaque est portée directement contre son ancien patron, mort dans la clandestinité.
Si Daniel Cordier a publié une riche biographie de Jean Moulin en 2009, Il a 89 ans quand il publie ses mémoires, alias Caracalla, un récit très dense dans lequel il raconte presque au jour le jour, d'ailleurs, ces trois années dans la résistance. Comment raconter avec autant de précision les événements 60 ans plus tard?
Mais d'abord, il avait 22 ans quand il a commencé sa tâche clandestine, et c'est un âge où il n'avait pas connu grand-chose, donc ça l'a vraiment marqué, premier élément. Deuxième élément, en 1977, il a commencé à travailler, il a écumé les archives, et en gros, quand il publie Alias Caracalla, ça fait 30 ans qu'il baigne dans la réalité clandestine à travers les archives. Ça, c'est très très important. Et puis, le dernier élément qu'on peut donner, c'est que pour Cordier, écrire cette histoire-là, y compris ses mémoires, c'est aussi utiliser les documents dont il parlait. Cordier a des archives très précieuses, très rares, qu'il a emmenées avec lui quand il a quitté les services spéciaux au lendemain de la guerre, et il se sert de ces archives comme d'une béquille. Donc en fait, sa mémoire est soutenue par quantité de documents qu'il détient chez lui.
Laurent Douzou, dans le cadre de votre métier d'historien, vous avez rencontré à plusieurs reprises Daniel Cordier. Quels souvenirs vous gardez de ces rencontres? Est-ce qu'il prenait plaisir à raconter les années qu'il avait passées aux côtés de Jean Moulin et toujours avec la même précision?
En fait, pas du tout. C'était un homme très pudique. Donc, des années passées avec Moulin, il ne disait pas grand-chose. Enfin, de l'année passée avec Jean Moulin dans la clandestinité, il ne disait pas grand-chose. Il parlait surtout des méthodes qu'il mettait en œuvre pour essayer de dire qui était en réalité Jean Moulin. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'épanchait. C'est quelqu'un qui beaucoup parlait de la manière dont il avait conçu le travail qu'il avait commencé alors qu'il approchait la soixantaine.
Merci beaucoup, Laurent Douzou, de nous avoir raconté Daniel Cordier, figure de la résistance lui-même et secrétaire de Jean Moulin. Votre livre « Le moment Daniel Cordier, comment écrire l'histoire de la résistance » est disponible aux éditions du CNRS. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castelopez et Olivier Pouls, sont réunis des secrétaires vraiment particuliers. Après Jean-Jacques Rousseau et Daniel Cordier, vous nous racontez Jean-Luc le bel Giorgio. Georg Genswein sur Europe 1.
Pourquoi le bon Dieu n'appellerait-il que les moches? Cette réflexion qui sonne comme un titre de comédie des années 80 est en réalité une déclaration du pape Jean-Paul II, à qui on faisait remarquer qu'il s'entourait de collaborateurs séduisants. Mais en matière d'image, c'est son successeur Benoît XVI qui a tué le game. I'm sexy and I know it. Avec son secrétaire Georg Genswein, un vent de sex appeal va souffler à la messe. Accrochez-vous à vos missels, vous n'avez pas vu ça depuis Richard Chamberlain dans Les oiseaux se cachent pour mourir.
C'est vrai qu'ils se ressemblent.
Ouais, vous vous rappelez oui. Ralph de Bricassard. Plus connu du grand public sous le nom du George Clooney du Vatican, Genswein ressemble en fait à Daniel Craig. Mais on va pas chipoter. Jörg, ou George, est né en Allemagne en 1956. Pour l'esprit, il verra plus tard, mais depuis tout jeune, il a un corps sain. Il fait du foot, du tennis et donne même des cours de ski. Rebelle, il a une longue chevelure bouclée et écoute les Pink Floyd. Son père se dit que ça lui passera, mais il n'a pas idée à quel point. George, ambitionné de travailler dans la finance, et il se demande alors ce qu'il ferait de son argent. Tout claquer à la fête de la bière, s'acheter son point choucroute? Non, pour lui, la vérité va être ailleurs. Alors il se coupe les cheveux et étudie la théologie. York se trouve une spécialité qui lui va comme un gant et devient docteur en droit canon. Oui, avec lui, la phrase marche avec ou sans la virgule. En 1984, à 28 ans, il est ordonné prêtre. Puis en 95, il part au Vatican rejoindre un compatriote qu'il admire, le cardinal Ratzinger, alors bras droit de Jean-Paul II. Il partage les mêmes idées et apprécie de pouvoir discuter en allemand. En 2000, Jörg devient le confesseur de Jean-Paul II. Ça a l'air d'être un job tranquille, hein, si on considère que le truc le plus dingue qu'il ait dû lui dire, c'est « j'ai été tenté de reprendre du tiramisu ». Puis il devient le secrétaire particulier de Ratzinger, et le reste lorsque ce dernier est élu pape en 2005. Premier pape allemand depuis 400 ans. Des idées un brin tradies et déjà 78 ans au compteur, Benoît XVI peut compter sur l'entier dévouement de Jörg. Souriant, discret et affable, il organise aussi bien les visites officielles qu'il retient la soutane de Benoît quand elle s'envole. Jörg se décrit comme doux sur la forme mais strict sur le fond. En gros, il est très sympa si on évite de lui parler mariage des prêtres et avortement. Et très vite, il se fait remarquer. Déjà, car c'est le seul qui n'a pas de sonotone. Mais surtout, son allure athlétique et ses yeux bleus font fondre toutes les italiennes. La presse l'appelle Belle Giorgio. Et Donatella Versace, connue pour son bon goût,
à part en matière de chirurgie esthétique, le qualifie de sex-symbole. Elle dessine carrément des modèles en s'inspirant de son look clergyman. Cet engouement ne gêne pas Jorg. Hein, maintenant, il ne veut pas être considéré que pour son physique. Il a quand même un cerveau qui s'est farci des années de droit canon, un des plus rébarbatifs qui soit. Mais alors, c'est comment la vie avec le pape? Eh ben, c'est plutôt sympa. C'est une coloc à 7 entre le pape, ses deux secrétaires et 4 italiennes laïques consacrées qui s'occupent de la maison et font la cuisine. Ça démarre avec la messe à 7h, puis ils enchaînent avec les audiences privées, le repas, la promenade, la sieste, le rosaire. Des journées studieuses, mais grâce aux indiscrétions de Jorg, j'ai quelques scoops. Benoît XVI a un vélo d'appartement, le genre de cadeau de crémaillère qui finit à la cave, et il n'a effectivement pas l'air de beaucoup monter dessus. Le soir, ils regardent la télé tous ensemble. Bien sûr, vous les imaginez devant la série The Young Pop avec Jude Law? Eh ben pas du tout, ils regardent que les infos. Et est-ce que Benoît traîne en pyjama devant la télé? Non, il est toujours dans sa tenue blanche. Même Eddie Barclay n'était pas aussi strict. Dernière info, contrairement à la rumeur, Benoît ne porte pas de chaussures Prada. Maintenant, est-ce que ce sont des Mephisto ou des Scholl? Il faut garder un peu de mystère quand même. Mais Benoît XVI se fatigue. Et en 2013, à 86 ans, il renonce à son rôle de pape. Ça paraît tellement fou que le monde entier demande alors à Jorg quelle est la vraie raison. Et le pauvre a bien du mal à communiquer la réponse de son mentor qui se contente d'un « Croyez-moi, c'est ainsi ». Devant l'insistance de Jorg, il finit quand même par dire « Je ne vous demande pas votre avis, je vous communique ma décision ». Ce qui équivaut à « Si on te demande, tu diras que tu sais pas ». Le pape prend sa retraite au monastère Ecclesia dans les jardins du Vatican. Jorg est ordonné évêque et comme préfet, il accueille toujours les chefs d'État qui viennent voir le pape François. Jusqu'à ce que ce dernier ne l'écarte en 2020. Il encaisse. Mais François ne l'emportera pas au paradis. Jorg s'occupe de Benoît au quotidien et essaie de mettre une bonne ambiance dans leur équipe. Oui, car Jorg ne boit pas que du vin de l'Est. Hein. Non, c'est un bon vivant qui tient à célébrer les fêtes et les anniversaires. Malheureusement, Benoît XVI, qui était épuisé physiquement, meurt le 31 décembre 2022. Je n'ai pas l'ami comme toi. Jorg, qui lui a tenu la main jusqu'au bout, reste inconsolable et on est sidéré de voir ce grand gaillard pleurer en public à plusieurs reprises. Il se remet en selle en sortant un livre début 2023 où il rend hommage à Benoît XVI et dit tout le mal qu'il pense du pape François qui est juste trop progressiste. Ça lui apprendra à le remplacer comme préfet. Mais que va faire le beau Jorg maintenant? Et qui va le consoler? Plusieurs millions d'Italiennes se portent volontaires. Pas de bol, Jorg est le plus grand opposant au mariage des prêtres.
Il peut faire autre chose au Vatican que de se marier, franchement.
Oui, mais c'est ça. Mais en tout cas, il y avait plein d'Italiennes qui le convoitaient.
Oui, je sais, je sais. Oui.
Mais vous pensez qu'il faisait des trucs avec le pape?
Non, non, je pense pas.
Non. Je vais tout ça être excommunié, visiblement. On partira ensemble.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos secrétaires vraiment particuliers pour retrouver deux chroniqueurs qui sont particuliers, eux aussi, surtout le premier. David Castelopez, vous nous racontez les origines d'un système qui a causé la perte de celui qui lui a laissé son nom.
Exactement. Ponzi. Le système de Ponzi, la pyramide de Ponzi. Oui.
Mais avant ça, comme chaque jour sur Europe 1, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on ne parle pas vraiment cuisine avec vous, Olivier Pouls. Vous allez comprendre pourquoi, chers auditeurs, parce qu'on remonte au XIIIe siècle, pas pour parler cuisine aujourd'hui, mais du sort qui, à cette époque-là, était réservé aux véganes.
Alors, j'ai une bonne nouvelle, les amis, bien que je crois que ça ne concerne personne autour de cette table. Si vous êtes végétarien ou végane aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il ne vous arrivera absolument rien.
Bah, au contraire, on sera porté
alors,
au nu.
Au pire, vous devrez encaisser la remarque caustique d'un viandard assumé dans mon genre, du genre « Hey, tu vas finir avec une tête de vache à force de bouffer de la salade ». Voilà.
Bon. Vous dites des choses comme ça. Vous.
Bon, ça peut m'arriver. Alors, rien de dramatique en tout cas, ni de mortel en tout cas. Et vous, les amis des animaux, vous pouvez vivre tranquille. Mais manger du steak de soja ou du fromage au tofu, il y a quelques siècles, pouvait, comme vous l'avez dit, vous emmener directement sur le bûcher. Nous sommes au XIIIe siècle, en 1209 exactement, le pape Innocent III a lancé la croisade contre les Albigeois. Les habitants du comté d'Albi, qui lui courent furieusement sur le haricot, car depuis quelques décennies, une fronde religieuse s'est implantée dans les villes et les villages du midi de la France. Ce mouvement conteste l'Église romaine et sa hiérarchie, prétextant qu'elle ne respecte pas les idéaux du Christ. Ce mouvement sera nommé plus tard le catharisme. C'en est trop pour le pape qui entend liquider ces hérétiques, quitte à provoquer une série de massacres absolument abominables. On se souvient de la fameuse phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », prononcée par Arnaud Amaury, le légat du pape, devant la ville de Béziers, avant de massacrer tous les habitants.
Mais je ne vois pas le rapport avec le véganisme ou le végétarisme.
Mmh. Eh bien, les cathares croient en la résurrection de l'âme, y compris dans les corps d'animaux. Il n'est donc pas question de les manger. En boulottant un porc ou une vache, vous pourriez manger votre grand-père.
Oh non,
ceux que l'on nomme les parfaits, les bons hommes ou les bonnes dames, s'astreignent donc à un régime très strict, respectant à la lettre les évangiles. Ils ne peuvent pas manger de gras, exigent donc la viande, les œufs, les fromages, le lait ou les graisses animales.
Il ne reste pas grand-chose.
Eh non, mais ils se nourrissent de légumes, de légumineuses, de fruits, mais aussi de poissons, car ils pensent que ces derniers ne possèdent pas d'âme et ne se reproduisent pas. Ils sont par ailleurs très attentifs à ce que les ustensiles utilisés pour préparer leur repas ne soient pas souillés par des produits impurs, comme du sang d'animal. Comme vous le voyez, nos amis véganes d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Les cathares pratiquent par ailleurs trois carèmes de 40 jours par an, des jeûnes au cours desquels ils ne se nourrissent que de pain et d'eau. Vous imaginez l'ambiance. Avec un tel régime, vous imaginez aussi qu'ils ne devaient pas être en très grande forme. Rien d'étonnant donc à ce que les armées royales, avec la bénédiction du pape, donc, les aient massacrés assez rapidement. S'en est suivie une longue période d'inquisition, au cours de laquelle les cathares ont été pourchassés et brûlés.
Des cathares qui ont parfois été trahis par leurs habitudes alimentaires, Olivier.
Eh bien oui, lors des interrogatoires, les supposés cathares étaient questionnés de manière insidieuse sur leurs habitudes alimentaires. Et s'ils reconnaissaient ne pas manger de viande, c'était direction le bûcher immédiatement. Il est fait état de plusieurs histoires ayant conduit dans les flammes des femmes et des hommes qui avaient simplement refusé de tuer et plumer un poulet. Trahis par leurs convictions, ils furent dénoncés au tribunal de l'Inquisition. Alors la chasse aux cathares s'est poursuivie jusqu'en 1321, date à laquelle celui qui est présenté comme le dernier parfait, un certain Guilhem Bélibaste, a été brûlé vif à Villerouge, Termès, et lui non plus n'avait pas mangé de viande.
Oh mes aïeux, mais dis donc, quelle époque. Merci beaucoup Olivier. Ça franchement...
Vous prendrez un petit morceau de poulet. Hein.
Ah bah oui, oui, oui. Hmm. Mais le poulet est considéré comme une viande ?
Ah oui, oui bien sûr, par les cathares, tous les animaux vivants, à l'exception des poissons.
Et pourquoi ils pensaient que les poissons ne se reproduisent pas ? Ça se reproduit, les poissons ?
Bah oui, mais ils pensaient qu'il n'y avait pas d'organes sexuels des poissons, ils ne savaient pas comment ça marchait, donc ils pensaient que...
Ouais, parce qu'on ne voit pas leur zizi très bien aux poissons.
C'est ça.
Je vais aller regarder le combat.
Un poisson ou une poissonne.
Comment ? Oui, c'est un poisson ou une poissonne.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Kessel-Lopez. Vous revenez aujourd'hui sur Europe 1, sur les origines d'un système qui a causé la perte de celui qui l'a imaginé.
Ouais. Comment faire pour devenir riche, vite et sans travailler ? C'est une question assez ancienne. Et l'une des personnes qui a le mieux répondu, c'est un monsieur qui s'appelait Charles Ponzi, en 1920 à Boston. Charles, c'était un immigré italien qui était né pauvre, mais qui avait vraiment envie de devenir riche. Il est arrivé aux États-Unis en 1903, à l'âge de 21 ans, avec, selon lui, $2.50 en poche, ce qui fait à peu près 35 euros aujourd'hui. C'est pas beaucoup pour commencer une nouvelle vie. Et pendant plus de 15 ans, il a fait des petits boulots, pas très bien, comme par exemple, il faisait la plonge dans les restaurants. Il a aussi trempé quand même dans des petites affaires illégales à Montréal. Et puis, un jour, en 1919, il a ouvert une lettre venue d'Europe dans laquelle il a trouvé ce qu'on appelait alors un coupon réponse international. C'est-à-dire un bon d'achat qui permettait à celui qui avait reçu la lettre d'acheter un timbre dans le pays où il se trouvait, de façon à pouvoir répondre à la lettre gratuitement. C'était un système qui datait de 1907, mais dont l'équilibre avait été perturbé par la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'un timbre valait maintenant plus cher aux États-Unis qu'en Europe. Donc si vous achetiez un bon pour un timbre en France et que vous le passiez aux États-Unis et que vous parveniez à le revendre, eh bien vous étiez susceptible de vous faire une marge de bâtard. Il y avait, si vous voulez, de la maille à se faire. Et Ponzi, il s'est jeté dedans. Il a rassemblé des investisseurs en leur promettant des retours sur investissement de 50% sur 45 jours sans risque. Hein ? Alors, je vous le dis quand même pour ceux qui... Si jamais on vous dit ça dans la vie, vous savez que c'est faux. Voilà, il n'y a pas de façon que ça arrive pour de vrai.
Rendez-moi mon pognon, David.
50% en 45 jours sans risque. C'était 10 fois plus que les taux d'intérêt habituels des banques américaines à ce moment-là. Non pas sur 45 jours, mais sur un an. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus. Mais là, il ne s'est même pas embêté à mettre en place le plan avec les coupons, Ponzi. Il a juste rien fait du tout. Mais il a eu rapidement suffisamment d'investisseurs qui l'ont cru pour pouvoir payer à certains exactement ce qu'il leur avait promis. Et ces gens-là, souvent, ils ont opté pour redonner leur argent à Charles pour qu'il l'investisse. Et ça, ça a attiré encore plein d'autres investisseurs. Charles, il avait obtenu la chose la plus difficile à obtenir quand on est un escroc, la confiance des gens. De plus en plus de gens lui ont confié leur argent et au début de l'été 1920, 7 mois après avoir commencé son business, il avait déjà accumulé une fortune de 8,5 millions de dollars. 8,5 millions de dollars, c'était environ 4000 fois le salaire moyen de l'époque. 4000 ans de salaire moyen de l'époque. 4000 ans. Charles, il a acheté un manoir dans un quartier chic à New York. Il a acheté des voitures de luxe, des vêtements hors de prix. Il y a eu plein d'articles sur lui ultra élogieux, ce qui n'a fait qu'augmenter encore la confiance qu'il inspirait. Il y avait la queue devant ses bureaux. Tout le monde voulait placer son argent chez lui. Quelques dollars hein, pour les plus pauvres.
Il les plaçait où ? En fait, l'argent était placé où ?
Il plaçait nulle part.
Nulle part.
Il faisait rien du tout.
C'est de la cavalerie en fait.
Il faisait rien et juste voilà, mais il y avait des centaines de milliers.
Il remboursait les uns avec le pognon des autres.
Bien sûr, il y avait des gens qui voulaient récupérer leur mise avec les intérêts. Mais Charles, il leur disait aucun problème. Et il payait. Sauf que ce qu'il rendait aux gens qui réclamaient leur argent, c'était tout simplement l'argent de ceux qui, eux, ne le réclamaient pas. C'est ce qu'on appelle en français déshabiller Pierre pour habiller Paul. Sauf qu'en l'occurrence, Pierre n'avait pas conscience qu'il était en train d'être déshabillé. Bon, il y avait des gens qui se méfiaient quand même. Mais Charles, il leur disait publiquement « Je vous défie de percer mon secret. » Jusqu'à ce que un journal de Boston finisse par révéler qu'il n'y avait pas suffisamment de coupons postaux en circulation pour générer autant de profits. En gros, pour que les profits affichés par Charles soient réels, il aurait fallu qu'il y ait 160 millions de coupons en circulation. Or, il n'y en avait que 27 000 en circulation aux États-Unis. Ponzi, il a fini par être confondu. En tout, il avait détourné 15 millions de dollars. Il a passé une grande partie de sa vie en prison. Il est mort dans la pauvreté au Brésil en 1949. Mais sa combine, que d'ailleurs il avait sans doute pas complètement inventée, elle a fait florès. Elle continue à faire florès aujourd'hui. L'arnaque de Bernard Madoff que vous avez cité tout à l'heure, Stéphane, c'était un schéma de Ponzi. Et plus récemment, il y en a eu d'autres, dans le domaine des crypto-monnaies notamment. Donc Ponzi, il est mort pauvre, mais son nom, lui, il est immortel.
Merci beaucoup David. Le mieux c'est de compter sur son propre travail plutôt que sur le travail de son argent.
Exactement, la sagesse.
Hein, il me semble, non ?
Tout
d'accord,
à fait.
Jean-Luc. Bon, en tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h sur Europe 1. Avec toute l'équipe et surtout trois nouveaux personnages qui sont dans une autre dimension. Léon Battista Alberti, l'architecte et peintre qui a théorisé les principes de la perspective dans l'étoile. Puis Rod Serling, auteur de la série La quatrième dimension, qui en utilisant la science-fiction a pu détourner la censure aux États-Unis. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un garçon plus vivant, mais haut, très haut perché.
Ah oui, il est disons différent, voilà, c'est ça, de nous en tout cas. Je vous raconte Sylvain Durif, l'homme qui avait annoncé la fin du monde en suivant une prédiction maya, le Christ cosmique comme il s'est autoproclamé. Je peux déjà vous dire qu'on va partir dans le cosmos.
Ah ben très bien, mais prévoyons une combinaison alors s'il faut partir très loin. On revient demain, alors à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.